Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Jacques-Yves Moulima.
C'est possible, les Congolais y croient. La RDC a toutes les chances de se qualifier pour Qatar 2022. Il suffirait que l'entraîneur fasse quelques retouches dans son équipe. C'est le souhait des uns et des autres que vous entendrez dans ce journal à quelques heures de la manche retour RDC Maroc à Casablanca. Et puis, les FRDC accusent le M23, appuyé par l'armée rwandaise, de mener des attaques contre ses positions Nord-Kivu. Pour preuve, deux soldats ont même été présentés par le porte-parole du gouverneur de province, le général Sylvain Ekenge, que vous écouterez dans ce journal. Enfin, notre invité ce matin, c'est le DG de la société textile de Kisangani, Soteski. Le professeur Glombert Loco nous révèle que son entité est en passe de fermer ses portes si on y prend garde. Sa production est actuellement en baisse et n'arrive pas à couvrir toutes les charges y afférentes. Voilà tout pour les sommets. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous ouvrons ce journal par le sport. Nous sommes à quelques heures du coup d'envoi du match entre le Maroc et la République démocratique du Congo, comptant pour la manche retour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards seront donc reçus ce mardi par les Lions de l'Atlas au stade Mohamed V de Casablanca à partir de 20h30, heure de Kinshasa. Les Congolais ont besoin d'une victoire, d'un but à zéro ou d'un nul de 2 buts partout. Pour être qualifié à la phase finale de Coupe du Monde 48 ans après, soit depuis 1974 en Allemagne. Le nul de 0 buts partout sera catastrophique pour les Congolais à cause d'un nul d'un but partout concédé à domicile vendredi 25 mars dernier au stade de Martyrs de Kinshasa. Que faire pour battre l'équipe du Maroc et obtenir le billet du Qatar? Blaise Chindani a recueilli les avis des amoureux du football dans les rues de Kinshasa. Suivez.
J'espère que nous allons gagner les matchs, nous allons nous qualifier. Mais si j'étais à la place de l'entraîneur, je vais essayer un peu d'améliorer certaines choses. Parce qu'au match aller, on a vu que l'équipe a bien presté, mais il y avait quelques éléments à rectifier. Dieu merci Mbokani qui était en pointe de l'attaque, il n'était pas à mesure. On a vu que les axes centraux marocains étaient trop vifs. Par rapport à Bakambu, Bakambu a démontré qu'il était en pleine jambe. Mais Mbokani était en dessous de la moyenne. Donc on peut utiliser un seul avant-centre et puis évoluer par 4-3-3. Qu'on utilise Meshak d'un côté et puis Wissa de l'autre.
Moi je pense que le match n'est pas si difficile que ça aussi. La défense, elle est bonne. Sauf qu'il faut juste changer Luindama, qu'il faut ajouter peut-être Tisserand. Et on a besoin de la vitesse de Kakuta et Meshak aussi. Avec ces deux, je pense que les Léopards feront un peu de miracle. Mais je pense qu'il n'y a pas de Qatar sans la RDC en tout cas.
Ce qu'ils n'ont pas pu faire au pays, mais qu'est-ce qu'ils vont faire au Maroc? Peut-être qu'il y aura un sursaut d'orgueil et tout, mais je suis un peu inquiet.
Nous avons une histoire avec cette équipe-là, donc nous l'avons déjà gagnée chez eux à plusieurs reprises. Donc c'est possible.
Autre nouvelle, les rebelles du M23 occupent les collines de Tianzhou et Runyonyi dans le Nord Kivu, selon les informations d'hier lundi. S'exprimant devant la presse à Goma hier, les FRDC affirment qu'au cours des attaques menées contre leur position, le M23 a bénéficié de l'appui de l'armée rwandaise. Deux soldats ont même été présentés par le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, comme faisant partie de l'armée de ce pays. Je vous prie de l'écouter dans cet extrait que nous propose Pélékipé Lamonto.
Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, des Tianzhou et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27779, et du soldat de rang Wajeneza Muhindi John alias Wadje. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux.
Des sources dignes de foi contactées par Radio Okapi parlent d'un important mouvement de déplacement des populations qui fuient les zones de combat. Ce mouvement est observé à Bunagana, cité frontalière de la RDC et de l'Ouganda. Ces familles tentent de traverser la frontière vers l'Ouganda pour se mettre à l'abri des exactions des rebelles du M23. Selon la société civile, d'autres habitants vivant autour de Tianjou et Runyonyi sont arrivés au chef-lieu du territoire de Rutshuru. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a procédé hier lundi à Kinshasa à l'ouverture de l'atelier d'adoption de la stratégie nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour le chef du gouvernement, beaucoup de voies de solutions ont été essayées, mais aucune n'a emmené la paix et la sécurité dans l'est du pays. Par conséquent, il demande à la population des provinces concernées de s'approprier ce programme. Selon Samalukonde, en tant que dispositif technique pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, la stratégie nationale du PDDCS vient accompagner et appuyer la politique du gouvernement en matière de stabilisation, de sécurité et de relance économique dans l'est du pays. Jean-Michel Samalukonde.
La République démocratique du Congo fait face à des problèmes d'insécurité causés par la présence des groupes armés, particulièrement à l'est. Ces conflits sont d'une telle complexité que leur résolution nécessite une stratégie globale de lutte. Beaucoup de causes et d'acteurs, tant nationaux qu'étrangers, se sont mêlés à tel point que ces conflits ont fini par avoir une dimension régionale. Plusieurs voies de solutions ont été essayées, mais jusqu'à présent, la paix n'est pas encore totale dans cette partie de la République. Les conséquences de cette insécurité sont énormes. Elles vont des massacres de nos concitoyens à l'absence réelle de l'autorité de l'État, en passant par des pillages des ressources naturelles de notre pays, des déplacements involontaires de nos populations et des installations incontrôlées et injustifiées de certains groupes d'individus sur notre territoire. Dans sa vision de paix, de cohésion sociale, de restauration de l'autorité de l'État et de la relance économique de cette partie de la République, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en a fait sa préoccupation profonde. La preuve la plus éloquente est la création du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire.
Avec la création du PDDRCS et l'élaboration de cette stratégie nationale, l'État congolais fait preuve de sa volonté de s'engager dans ce processus et nous nous en félicitons, a affirmé pour sa part la chef de la MONUSCO, tout en réaffirmant la disponibilité des Nations Unies à accompagner le gouvernement congolais sur ce chemin. Elle a tenu également à souligner l'importance qu'elle rêvait pour la RDC, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. On l'écoute.
L'absence ces dernières années d'un programme d'IDR véritablement adapté au contexte opérationnel de la RDC, à la typologie des conflits armés à travers le pays, à la nature des acteurs qui en sont les auteurs et les modalités de la violence qui en est la manifestation, a eu pour conséquence la multiplication des groupes armés ainsi que le recrutement et dans certains cas le re-recrutement de milliers d'hommes et de femmes. À cela s'ajoutent également les garçons et les filles qui ont vécu les horreurs des conflits. Mais, fort des expériences et leçons accumulées des programmes précédents de DDR en RDC, nous savons que le pays ne peut continuer un programme DDR traditionnel. Mais nous savons également que le pays a besoin d'un programme intégré de consolidation de la paix, œuvrant essentiellement au niveau des communautés et qui inclut également la stabilisation pour appuyer les éléments de dialogue, de transformation des conflits, de restauration de l'autorité de l'État, de DDR, de réintégration à base communautaire et de relèvement communautaire.
Les propos du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et de la chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, ont été recueillis par Richard Junior Kamunga. Examen de la motion de défiance introduite lundi de la semaine dernière contre le ministre de l'économie. Le ministre Jean-Marie Kalumba est attendu demain mercredi à l'Assemblée nationale pour présenter ses moyens de défense. Le bureau de la Chambre basse du Parlement lui a transmis la motion et l'invitation depuis vendredi dernier afin qu'il vienne se défendre sur les raisons de la montée des prix des produits et services sur le marché de la RDC. L'initiateur de la motion de défiance se félicite déjà de la fixation de la plénière de ce mercredi sur cette motion et invite le ministre Jean-Marie Kalumba à démissionner avant mercredi par élégance politique. Faute de quoi, il sera déchu le même mercredi, précise le député Crispin Bindoulé. Il est au micro de Michel Kifinangoy.
Le bureau de l'Assemblée nationale a déjà évité le ministre pour venir se défendre au niveau de l'Assemblée nationale pour ce mercredi 30 mars 2022 à 11h. Moi-même, j'ai été copié et le ministre a déjà reçu la motion de défiance et on lui a déjà transmis aussi l'invitation. Ce que nous demandons, c'est appeler aux collègues de voter pour la motion afin qu'on aide le ministre de l'économie à quitter le gouvernement. Si le ministre démissionne avant l'examen de la motion, à ce moment-là, la motion n'a plus le sens d'être débattue. Mais si le ministre ne démissionne pas avant mercredi, nous allons débattre de la motion et voter pour cette motion afin de le faire partir. Je vous assure, les députés nationaux sont déterminés pour faire partir ce ministre parce qu'il ne régule pas le prix des biens et services sur le marché.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, des officiels et différentes parties prenantes venues de la RDC et d'autres pays membres de la SADC vont évaluer la mise en œuvre de la politique régionale sur les questions minières. C'est là au cours d'une réunion de travail de 2 jours à partir de demain mercredi 30 mars. Ça sera à Johannesburg en Afrique du Sud. Notre envoyé spécial Bachizi Nabizana est sur place. Mais avant de nous parler des travaux proprement dit, suivez cette explication sur les enjeux de ces rendez-vous.
La grande majorité des pays de la SADC, l'organisation régionale des pays de l'Afrique australe, sont des pays miniers. Mais il est un fait que cette abondance en richesses minières peine à favoriser un développement inclusif axé sur l'industrialisation. Pour donc inverser cette tendance, un cadre d'orientation stratégique a été adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2009. Il s'agit de la vision minière africaine. Pour autant, et de l'avis de plusieurs experts, la réussite de cette politique dépend de l'existence des politiques régionales sur lesquelles viendront s'aligner des efforts nationaux. C'est ainsi que la politique et le plan d'action de la vision minière régionale de la SADC ont été approuvés en 2019, cela dans le but d'optimiser l'impact de l'extraction des ressources minières sur le développement durable dans la région. 3 ans après, il est constaté une lenteur de sa mise en œuvre et un manque de vulgarisation auprès des principales parties prenantes. C'est donc tout l'enjeu de ces assises de 2 jours à Johannesburg, en Afrique du Sud.
On revient ici en RDC. Le bateau Emmanuel IV a totalisé au début de ce mois de mars 2 ans et demi sur le lac Kivu, reliant la ville de Goma à celle de Bukavu au sud Kivu. Construit sur le chantier naval de Kituku à l'ouest de Goma par des Congolais, ce bateau est qualifié par les voyageurs qui le prennent d'hôtel 5 étoiles flottant. Les usagers félicitent le génie congolais et demandent aux responsables de ce bateau de continuer sur la voie de l'innovation sur le lac Kivu. Rosalie Zawadi nous décrit ces bijoux du lac Kivu.
Avec sa couleur or, ce bateau a été construit pendant plus de 2 ans à Goma. 30 mois après son voyage inaugural, Emmanuel IV garde son prestige et continue à émerveiller les voyageurs. Bolingo Joël, capitaine titulaire de ces bateaux, nous présente l'œuvre.
Nous avons conçu le bateau avec la capacité de 150 tonnes de marchandises pour sa stabilité et 800 passagers. D'une place assise de 800. Les bateaux, pour le moment, c'est la fierté de notre province, voire même le Congo.
Un passager qui prend régulièrement ces bateaux continue à l'apprécier. Il félicite les constructeurs et leur demande de continuer à innover sur les lacs.
Je prends souvent Emmanuel, surtout depuis qu'Emmanuel 4 est sorti. C'est un produit de chez nous. Nous devons d'abord valoriser le produit de chez nous et aussi encourager les ingénieurs congolais qui sont arrivés à concevoir un bijou pareil.
Les capitaines titulaire du bateau Emmanuel IV ajoute que ce bateau est bien conservé afin qu'il continue à faire honneur au génie congolais. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et puis, le secteur de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique nécessite une attention particulière du gouvernement au regard de la baisse du niveau de la qualité de l'enseignement, mais aussi de la dégradation de ses infrastructures. Pour illustrer le multiple problème que connaît ce secteur, Radio Okapi débute à partir de ce mardi 29 mars une série de reportages terrain dans quelques universités du pays. Dans ce premier reportage, Michel Kifindangoy nous dresse l'état des lieux de la fille aînée des universités, l'UNIKIN, Université de Kinshasa. Suivez.
Construite en 1954, l'Université Lovanium avait la même réputation que l'Université de Louvain en Belgique. Devenue Université de Kinshasa à l'époque du Zaïre, l'UNIKIN est composée du site académique de la cité résidentielle pour les étudiants ainsi que du plateau de professeurs. Sur le site académique, on y trouve le bâtiment administratif de plus de 100 mètres de long avec deux niveaux, un rez-de-chaussée plus une cave. Il est entouré de part et d'autre des 7 bâtiments facultaires de même taille presque, abritant 12 facultés que compte l'UNIKIN. Le site académique est limité dans sa partie inférieure par les cliniques universitaires, l'école de santé publique, le centre hospitalier du Mont-en-Bas ainsi que le centre neuropsychopathologique et dans sa partie supérieure par la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. Le quartier résidentiel est composé de 8 hommes du plateau des étudiants, de hommes 10, 20, 30 pour les garçons, ainsi que de hommes Vatican 80 et 150 pour les filles. Le plateau des professeurs, lui, compte plus de 500 villas. Malheureusement, l'université de Kinshasa est à ce jour menacée par plus de 70 têtes d'érosion, mais aussi d'enclavement suite à l'impraticabilité des routes.
Actualité internationale.
Le président de gauche du Pérou, Pedro Castillo, a échappé lundi à la destitution par le Parlement dominé par l'opposition de droite qui avait engagé une procédure pour incapacité morale. Après plus de 8 heures de débat, 55 députés ont voté pour la destitution, 54 contre et 19 se sont abstenus. Un minimum de 87 voix étaient requis par la Constitution pour que la destitution soit prononcée.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, la Sauteski est en passe de fermer ses portes. Si on y prend garde, sa production est actuellement en baisse et n'arrive pas à couvrir toutes les charges y afférentes. Dans cet entretien accordé à Radio Okapi, le directeur général de cette entreprise textile parle notamment de la capacité de production actuelle des Sauteski, des difficultés auxquelles la société est confrontée et que faire pour la sauver. Glaubert, loco directeur général des Sauteski, s'entretient ici avec Jacques Moukonkolé. Suivez.
Monsieur le DG de la Sauteski, bonjour. Quel état des lieux pouvez-vous faire aujourd'hui de votre entreprise?
La Sauteski est en cours de modernisation depuis 2017. Elle a entrepris cette modernisation de son équipement qui est devenu vétuste, investissement. Et les équipements qui ont été mis en place depuis 1974, donc ça fait partie de la technologie des années 70 et 60. Il était très impérieux pour rester compétitif sur le marché, qui est très concurrentiel, de pouvoir moderniser, de suivre la technologie pour rester sur le marché. Donc là, nous avons commencé ces processus, nous avons amorcé depuis 2017, mais ces processus sont mis à mal par certaines décisions, notamment la suspension de l'acte juridique qui nous a permis d'accéder aux mesures incitatives prévues par les partenaires stratégiques sur la chaîne de valeur.
En quoi cela vous a été préjudiciable par rapport à la production?
Notre production avec un équipement qui est devenu obsolète est tombée pratiquement de 1,5 million initial à l'époque où on avait créé l'usine, à 261 000 mètres de production au niveau de tissage, parce que nous sommes dans une structure d'intégration verticale complète. Et en 2020, cette production est tombée à 65 000 mètres. Il était très impérieux pour que nous puissions justement renouveler l'équipement et puis remonter la production. Malheureusement, nous avons amené 10 nouveaux métiers qui pouvaient nous aider à remonter la production vers le niveau diagnostiqué en 2016. Mais lorsque nous avons cherché à déposer la demande de mise en consommation au niveau des douanes, nous avons buté à cette réalité de suspension de l'arrêté d'exonération. Pourtant, ces importations ont été effectuées dans les cadres de ces mesures incitatives qui avaient été convenues entre nous et l'État congolais.
Est-ce que la Sauteski produit aujourd'hui? Quelle année de la capacité?
Nous continuons à produire, nous sommes travailler malgré des problèmes, nous essayons de travailler pour nous maintenir dans l'espace commercial congolais, mais la capacité est fort réduite. Comme je disais tout à l'heure, nous étions à 1,5 million initialement. effectivement, lorsqu'on avait créé l'usine, cette capacité est restée résiduelle au niveau du tissage. Parce que nous avons une structure intégrée. Nous avons la filature qui est à pratiquement 500 mm. Nous avons le tissage qui était à 261 mm. Et les finissages tenture en pression qui étaient pratiquement 900 mm. Mais 4 ans après, la filature est restée au même niveau. Mais les tissages étaient à 65 mm. Alors si on doit produire 65 mm mensuels, donc nous sommes assis à 80 mm annuels. Donc ça représente 4,3% de la capacité installée initialement et pratiquement très peu de pourcentage. Donc on n'est pas rentable, on est en train de travailler en dessous de ça de rentabilité, de sorte que la station ne prend pas en charge tout ce qui est généré pour que nous puissions assurer le fonctionnement.
Vous venez d'acquérir de nouveaux équipements. Quel pourrait en être l'impact au niveau de la production?
Donc, si nous mettons en œuvre cet équipement, une fois installé, monté, on transfère la technologie, on forme le personnel, nous allons remonter cette production qui est toujours à 65 mm à 211 mm. Et comme c'est un processus qui est graduel, nous pourrons arriver jusqu'à 300 mm si on amène encore d'autres machines, parce que le programme est là, le projet est là. Nous pourrons arriver à 20 métiers, 30 métiers, et nous pourrons atteindre facilement 500 mm ou même dépasser, parce que l'objectif est d'atteindre 900 mm.
Monsieur le DG, quelle lecture faites-vous de ce dîner d'affaires organisé par l'affaire Kitchopo?
J'avais voulu que l'affaire ne soit pas de la Sauteski seule. La Sauteski est implantée dans un réseau territorial qui est la province orientale. C'est donc un patrimoine de la province orientale, pardon, de la province de la Kitchopo. Il faut que tout le monde soit au courant parce qu'il y a beaucoup de désinformations autour de ce qui s'est passé à la Sauteski. Alors, j'ai voulu faire passer le message depuis la source, un message vrai, et que chacun puisse comprendre quelle est la problématique et celui qui a une parcelle de pouvoir qui peut agir, qui les fasse pour sauver la Sauteski. C'est un patrimoine de la République, particulièrement un patrimoine de la Kitchopo. Et nous avons tous responsabilité vis-à-vis de la postérité et nous devons la protéger pour qu'elle continue à jouer son rôle de développement et continue à produire des richesses et des profits taxables.
Et que demandez-vous au gouvernement congolais pour vous aider à relancer la production?
Nous demandons d'abord que l'on puisse respecter les textes qui ont été pris et c'est dans le cadre de ce texte-là que nous avons importé le machine. Au moment où il y a même une décision du Conseil d'État, une ordonnance en référé des suspensions, que cette ordonnance soit exécutée pour permettre à Sauteski de continuer de poursuivre sa modernisation et de continuer à donner des emplois, sinon dans une brève échéance, elle va disparaître.
Monsieur le DG, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.